à l'issue de laquelle vous répondez toutes vos questions. Et je vous rassure, Aïnard parle plutôt très bien français. Merci.
Bonjour. Pour commencer, j'ai essayé de trouver une explication de qui sont français. Ce n'est pas très élégant, mais c'est mieux que rien.
Oui. Hein?
Et j'ai débuté avec un balance, mais Anne-Marie m'a dit un balance, ça n'existe pas en français. Comme ça, on a pris instabilité. Hein? Et j'essaie de vous montrer l'importance des problèmes fonctionnels. Et le deuxième pas est comment traiter. Mais là, on dépend à certains paramètres que pas tout le monde a à sa disposition. Par exemple, bonne radiographie et des possibilités d'examen neurologique. Mais ça, c'est le deuxième pas. Le premier pas, le pas primordial, c'est de se rendre compte que le début de la vie, les mois jusqu'à la verticalisation sont d'une qualité différente que le reste de la vie, et l'influence des problèmes fonctionnels à cet âge-là tiennent des conséquences pour le reste de la vie. Et j'essaye de me baser sur les expériences que j'ai faites pendant les années, mais c'est un sujet sans fin. Et comme ça, nécessairement, il y a des aspects qui sont un peu traités courts, mais j'espère que la totale est logique. Je commence avec le fait que finalement le mot orthopédie était inventé par un médecin français dans le 18e siècle, Monsieur Andry. Dans cette période-là, il y avait beaucoup des formules. Je ne me souviens plus de tous les mots qui étaient inventés, mais lui a écrit un livre qui est à la base des traitements fonctionnels. Et il y a pas mal de choses qui sont nécessairement démodées maintenant, mais c'est quand même étonnant à quel point il a déjà vu des problèmes que nous avons analysés plus profondément maintenant. Et vous connaissez peut-être ce symbole qui est sur le logo de pas mal de cliniques orthopédiques. Et ça a deux aspects, l'aspect de redressement, mais aussi un aspect de essayer d'influencer la totale par améliorer la symétrie. Et c'est très intéressant de voir le chapitre sur ce qu'on appelle dans les années 80 torticollis neonatorum, mais ce qui est finalement la chose que nous préférons appeler comme KISS. Et je trouve que c'est très important de faire la distinction entre le fait qu'on traite peut-être un reflux ou un bébé agité et un KISS, parce que si on traite un reflux, on traite finalement un symptôme et pas la base structurelle. Voilà. Le mot KISS est le résultat des années de empirique où on a traité des bébés. Au début, on a reçu des bébés, des mères qui ont eu des maux de tête ou qui étaient patients eux-mêmes, et à un moment donné, ils ont dit: est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour mon bébé? Il est tellement difficile, il dort mal, il est difficile à nourrir, il a beaucoup de problèmes. Et quand on a traité, on s'est rendu compte qu'il y a des autres problèmes qui se sont améliorés. Et comme ça, c'était un ping-pong entre les informations qu'on a reçues des parents et la situation clinique. Au début, on a presque toujours eu des bébés comme Kiswan, comme une nuque tordue, parce que là, c'était évident que peut-être on devrait demander quelqu'un qui sait quelque chose des problèmes mécaniques. Et au fur et à mesure, on a vu que, par exemple, l'allaitement ou les fréquences de dormir sont améliorables en traitant la nuque. Et comme ça, le kysté, la hyperextension est venue de plus en plus dans notre répertoire. Et aujourd'hui, je reçois presque jamais un enfant qui n'a pas eu des traitements ailleurs. Et seulement quand j'ai déjà traité un enfant de la famille, ils viennent comme premier pas chez nous parce qu'ils ont vu le résultat. Mais normalement, c'est des enfants. Souvent, des enfants hollandais ont une quinzaine de traitements. Je dis toujours, ça me donne des frissons. Voilà. Récalcitrant. Voilà. La distorsion dans la plaine frontale, c'est plutôt ce qu'on appelle le torticolis. Si ça reste plus longtemps, on a une microsomie, une asymétrie crânienne et une scoliose C. Après, à l'âge adulte, une scoliose S est plus difficile à traiter. Une scoliose C est assez simple. Et une conséquence est une motoricité asymétrique des extrémités. C'est un bébé qui ne peut pas se promener à quatre pattes. Il traîne une jambe ou il utilise mal un bras. Et en total, on a un développement plus lent. Là, on doit discerner entre les garçons et les filles, parce que les filles sont beaucoup plus rapides jusqu'à l'âge de 3, 4, 5 ans. Je dis toujours, si un garçon ne marche pas à 15 mois, je prends note. Si une fille ne marche pas à 15 mois, je suis inquiète. Si un garçon ne parle pas à 2 ans et demi, je prends note. Si une fille ne parle pas à 2 ans et demi, je suis nerveux. Hein? Le deuxième facteur est le kysté. Vous ne devez pas prendre... Vous pouvez le faire facilement, mais après, je vais vous donner le OAL pour un article où tout ça s'est noté, et comme ça, ça ne vaut pas la peine de faire des mauvaises photos. Et avec les kystés, vous avez une hyperextension fixée. Ça, on a vu plusieurs fois. Aujourd'hui, un bébé qui est comme ça, qui a difficile de se mettre ventralement, et il a une hypotonie orofaciale. Il y a des problèmes pour se mettre sur ses bras, et il y a un problème d'être à l'aise sur son ventre, et il y a souvent un problème unilatéral avec l'allaitement. Là, avec le biberon, c'est plus facile parce qu'on prend une ouverture plus grande et ça marche, mais avec l'allaitement, les mamans savent très bien qu'à la gauche c'est plus difficile qu'à la droite, et ils cherchent, est-ce que ça, c'est un malfonctionnement des médecins, et c'est pas le cas. Et parfois les bébés sont pas capables d'avoir une motoricité fine, et ils mordent sur le sein et ça fait mal, hein? Et il y a deux positions fixées des bras. On appelle ça en allemand, c'est Henkelstellung, c'est comme ça, et l'autre est la position d'avion, c'est comme ça. Et il y a pas mal des autres diagnoses, comme reflux, colique, ça me rend malade parce que à l'âge d'un nourrisson, l'entrée de l'estomac est ouverte. C'est un reflux, c'est physiologique. C'est rien de grave. Et de faire une pathologie et de donner des inhibiteurs de H2, c'est, je trouve, bête parce que on se mêle avec l'établissement d'un équilibre intestinal des nouveau-nés et c'est pas une bonne idée. Dans presque tous les cas, une chose que les parents voient très rapidement, c'est que les bébés ont des mains et des pieds en sueur et assez froides. Et après le traitement, ça change dans quelques jours. Et je dis toujours, là vous avez un paramètre que vous pouvez contrôler vous-même. Et les asymétries fonctionnelles, ça c'est beaucoup plus tard, c'est après la verticalisation, c'est pas l'ensemble initial. Et en Angleterre, il y a une association INPP qui s'occupe des réflexes primitifs qui persistent. Et là aussi, j'ai pas mal de petits patients qui viennent des physios qui connaissent quelque chose avec les réflexes primitifs. Et ils me racontent que dès qu'on a soulagé le blocus dans la nuque, ça s'améliore. Voilà. Ça, bon, j'ai une collection d'une centaine de photos. Là, vous voyez un kyste 1, là, vous voyez un kyste 2. Les mères me disent parfois qu'après le traitement, on a pu caresser le bébé. Avant, il se rejette. Et il y a des cas avec des mères pas trop intelligentes qui croient que le bébé les refuse. C'est parce qu'il y a trop de stress pour le petit. Voilà. Oh, pardon. Ah. Et tous les aplatissements dans la partie occipitale, on peut presque garantir que c'est soulagé après le traitement. En Allemagne, c'était il y a 10 ans, fort à la mode de mettre des casques. Primo, ça coûte beaucoup d'argent. Secondo, ça établit des situations malsaines parce que le bébé sait qu'avec son casque, il peut ouvrir les portes et dès qu'on a plus un casque, ça fait un peu mal. Hein? Et troisièmement, on traite un symptôme et pas l'origine. Et je dis toujours, si il y a un reste d'asymétrie qui persiste, c'est pas important. Ça n'a aucune influence sur le développement du système nerveux. C'est l'empêchement des mouvements dans la nuque qui empêche la position des dents, aussi le strabisme et tout ça. Avec un bébé qui a, ou avec un jeune enfant qui a environ 2 ans et demi, on peut très souvent fort aidé avec un strabisme. Après, c'est établi, on peut être aidant, mais pas plus à la cause. Même chose pour les dents croisées. Hein? C'est jusqu'à 4 ans, 4 ans et demi, on peut faire une thérapie à fond, et après, c'est les orthodontistes qui doivent aider. Voilà. Et ça, c'est une chose que j'ai bien, il faut toujours bien regarder. Voilà. je crois que vous voyez le bonhomme qui est là. Il y a des petites différences qui sont importantes. Dans les musées en Versoise, il y a pas mal des portraits du Jésus qui montrent des problèmes neurologiques après la naissance. Ça, c'est très clairement une paresse de Herpes. Ça veut dire une irritation du plexus cervicalis. Mais on peut avoir les deux. On peut avoir une nuque stressée et stressante et un Herpes. Et je crois que si on a un Herpes, ça va toujours la peine de aussi regarder la nuque pour améliorer la thérapie. Et l'illustration à gauche, c'est un monsieur Nageli qui a écrit un livre au milieu du 19e siècle en Suisse. Il était un soliste, il n'a pas fondé une école, il était oublié, mon père l'a trouvé par hasard dans un antiquariat et a republié le livre. Et c'est extrêmement important, extrêmement intéressant de voir qu'avec des paradigmes complètement différents, il arrive à la même thérapie de s'occuper, disons, de la nuque. L'autre est Käthe Kollwitz, c'est un artiste des années 20 en Allemagne, très socialement engagé, et ça s'appelle l'enfant malade. Ça n'a rien à voir avec une thérapie, mais j'ai trouvé ça très, très intéressant que spontanément la mère touche la nuque du petit. J'ai utilisé ça comme illustration pour mon livre anglais. Oups. Non.
Je vais le faire ici.
Non. Attends.
Je vais essayer ici.
Voilà. Non, ça c'est. Frédéric Leboyer, vous le connaissez peut-être. C'est un livre sur, disons, sur le massage, une tradition indienne qui a beaucoup de parallèles avec les techniques ostéopathes modernes. Et la figure à droite est un tiki polynésien. Ça montre que le torticolis était aussi un problème dans ces sociétés-là. Et il faut dire que ça peut avoir des conséquences problématiques, mais ce n'est pas forcément un drame pour la vie. Après, le monsieur à gauche, Moses Mendelssohn, c'est quelqu'un du 18e siècle à la base de, comment on dit ça, Enlightenment. Oui, âge de lumière. Et sa petite fille est Fanny Hensel. Fanny Hensel était la sœur de Felix Mendelssohn Bartholdy. Il a aussi eu un torticolis. Et quand il faut regarder bien que c'est caché normalement, hein. Mais il a un deltoideus et une partie gauche qui est tout à fait raccourcie. Mais après, il était bossu et il a eu certainement pas mal des malheurs orthopédiques, mais il était quand même un philosophe de l'âge de lumière à Berlin. Et l'autre est un anchorman dans les nouvelles en Allemagne, très connu. Et là aussi, vous voyez que c'est une asymétrie de visage qui est très probablement à cause du fait qu'il a subi un problème parénatal. Voilà. Ça, ouais, c'est trop vite. Nah. Ça, c'est un patient devenu ami qui est maintenant décédé, qui m'a donné une collection de ses photos. Ça, c'est dans les années 30. Il était un jeune garçon. Ça, c'est jeune professeur, plus tard. Et vous voyez la même situation. Et là, j'ai fait sa connaissance. Ah, voilà. Et là, vous voyez qu'il a déjà l'habitude de prendre une position où il camoufle sa situation. Et il y a aussi eu des problèmes à cet âge-là. C'était un diabète, une hypertonie et des choses pareilles. Mais j'ai papoté sur ces problèmes quand il était jeune professeur. Et c'était en effet des migraines et des maux de peau et tout ça, les problèmes gastriques. Bon, je vais changer l'entrée, peut-être ça s'améliore comme ça. Peut-être la batterie qui est épuisée, je ne sais pas.
Bon. Ça, c'est complètement foutu. Voilà.
Chose que tu peux t'asseoir. Chose que je vois de plus en plus, c'est qu'il y a une tendance familiale. Ça veut dire que si le petit vient pour des problèmes de kyste, j'ai souvent, quelques mois après, le papa qui me demande « Est-ce que vous faites aussi des adultes ?» Et je réponds « Je ne les fais pas, je les traite. » Et il arrive avec ses migraines ou je ne sais pas quoi, et à la fin, c'est le grand-père qui arrive aussi. Et c'est marrant, j'ai aussi toute une collection des photos qui montrent les parallèles entre les générations. Non.
Excusez-moi, la photo d'avant,
oui.
La photo à gauche.
Oui. Je vais essayer, voilà.
C'est quoi le problème?
Non, vous voyez que le petit est un peu courbé, il prend la position comme ça, et le père a plutôt un visage où la partie gauche est plus petite.
Hein?
Et à la fin, on a un défaut professionnel. Je vois ça au supermarché. Hein? Et je m'excuse de croire que tout le monde le voit au premier regard. Hein? Voilà.
Ah oui.
Tu vois, et comme ça, j'ai des douzaines de photos. Et c'est marrant parce que je ne dois pas employer les mêmes photos deux fois. Voilà. Beaucoup plus tard, je vois parfois qu'il y a un problème anatomique. Comme ici, on voit que l'atlas est, je dis pas mal formé, c'est une variante, je dis. Et quand tu as une position pareille, c'est très probable qu'on a des problèmes dentaires. Dès qu'on a une kyphose au niveau cervical, on doit bien regarder le niveau maxillofacial. Et très souvent, on a un problème au niveau de l'atlas et aussi un problème au niveau de la jonction lombosacrale et en plus des hanches. Si vous regardez très bien, vous voyez que la construction des hanches est légèrement différente ici. Et j'ai appelé ça ALF. Ça veut dire Atlas Lumbar Femur. Et ça me permet de prognostiquer que j'ai fait très rarement une photo du bassin avec des jeunes. Mais je peux dire, quand je vois une situation pareille, que c'est très probable qu'on va avoir une instabilité. Là, c'est un autre cas.
on voit que l'atlas n'est pas très bien développé. On voit que la jonction lombosacrale est un peu asymétrique. Et on peut dire que là, on a une asymétrie lombaire qui n'est pas une vraie scoliose. Je peux dire aux autres, ça c'est une jeune dame de peut-être 16-17 ans, et je peux dire que c'est aucun souci, ça va rester comme ça. Ça ne nécessite pas un traitement dramatique, mais on doit se rendre compte que, point de vue connexion basse statique et par exemple situation dentaire, il y a un équilibre assez fragile. Voilà. Et ça. Voilà. Je répète, la verticalisation autour des 10 mois pour les filles, autour d'un an pour les garçons, et une jonction primordiale après la fin de l'âge de croissance entre 15 et 19 ans, et une autre phase. Et là, vous voyez un bébé kiss typique. Là, vous voyez un jeune qui a des problèmes de concentration qui sont finalement des problèmes de filtrer les bruits autour de lui. Quand il a un stress dans la nuque, ses systèmes spontanés pour filtrer le bruit sont empêchés et il doit se concentrer au max. Et ça, il peut faire peut-être un quart d'heure, et après, il laisse tomber. Et à l'âge adulte, tu as plutôt les asymétries. Et très souvent, les gens ne viennent pas pour les asymétries, mais pour les baux d'épaule, pour les problèmes dentaires. Il y a des dentistes qui m'envoient des patients pareils, parce qu'ils savent qu'après, on a réglé le système en totalité, le reste s'améliore aussi mieux. Et là, vous voyez un cas typique, et ça, j'ai montré aussi aujourd'hui, les patients se mettent spontanément comme ça, et on peut essayer, on peut dire, ok, redébout et remettre sur le dos, et ils vont prendre la même position. Et quand on met les pieds au milieu, ils disent je me sens pas à l'aise, hein. Et je montre le petit photo, comme ça vous êtes situé, et ils comprennent mieux que leur système statique est un peu décalé. Et là vous voyez très bien qu'il y a une asymétrie lombaire, il y a une asymétrie là aussi. Point de vue musculation, ça veut dire que ce n'est pas une asymétrie qui est venue hier, c'est une asymétrie de longue date. Voilà, ce sont les photos. Là, on voit l'asymétrie lombosacrale anatomique. Là, on voit un atlas qui est un peu hypoplaste. Là, on voit une situation dentaire pas idéale. Et quand on voit une cervicale qui est tellement droite, je dis toujours à mes patients, quand je peux mettre une règle, un linéal, comment on dit ? Une règle dans votre radiographie, ça me montre que la situation dentaire sera intéressante. Voilà. Et ça, c'est la partie antérieure-postérieure. Et on a besoin des pendules. On a besoin de C1 pour un peu trouver la relation. Et vous voyez que le C2 est un peu en rotation. La partie gauche est beaucoup plus petite là que la partie droite. Oh, c'est intéressant. tout nouveau. Voilà. Il faut toujours penser à des choses plus graves. Et toc, toc, toc. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu des cas où j'ai pas trouvé. Mais je me souviens, j'ai eu une jeune où j'ai téléphoné au pédiatre et j'ai dit, elle me met mal à l'aise, mais je veux pas inquiéter les parents trop, mais j'aime bien si vous commencez avec un examen un peu plus approfondi, comme un MRI ou un truc pareil. Et malheureusement, après, c'était un tumeur primitif dans la partie cervicale de la médulla. Et après, le père m'a écrit une lettre furax que je n'ai pas vu ce problème. Et j'ai dit, prenez un contact avec le pédiatre et demandez-lui qui a commencé le processus. Et c'était un commissaire de la police. Et j'ai dit, il ne faut pas toujours croire le premier regard, il faut un peu approfondir l'analyse. Et après, je n'ai plus entendu n'importe quoi. Voilà. Et ça, c'est le problème avec les bébés. On ne voit pas tout ce qu'on voit après sur les radiographies. Il faut une maturisation de la situation anatomique. Au début, tu peux soupçonner, mais tu ne peux pas savoir. Et il y a, ça je vais raconter plus tard, il y a une petite partie qu'on doit traiter plusieurs fois, et là on trouve souvent ces problèmes morphologiques. Voilà, là aussi, vous voyez un atlas qui est un peu hypoplastique et la symétrie à la base du pelvis qui est pas miraculeux. Je crois je parle plus d'un syndrome parce qu'un syndrome veut dire qu'on a une collection de symptômes et on ne sait pas très bien comment ça se fait. Mais maintenant, nous avons une nosologie plutôt bien établie. On a des informations pathophysiologiques, embryologiques, neurophysiologiques qui ont contribué. Et je peux dire que KISS est plutôt une entité clinique qui est un syndrome. Et je crois que tu as là la conséquence. Ça c'était longuement sous-estimé. Et je crois que c'est très important si on a une famille où on trouve souvent des problèmes avec la nuque et avec la partie cervicale. C'est très probable. Et c'est aussi intéressant de voir que si le premier bébé que j'ai traité, c'est d'un garçon, c'est très probable que je dois traiter le deuxième bébé si c'est aussi un garçon. Si c'est une fille, c'est beaucoup moins probable. L'autre est aussi vrai, si le premier bébé est une fille, c'est plutôt une autre fille qui va venir et la mère. Et souvent, quand on traite le deuxième ou troisième enfant, les parents disent « Oh, quand je vois la liste que vous me donnez en préparation pour la visite clinique, je vois les problèmes que j'ai eus avec mon premier enfant qui a maintenant, je ne sais pas, une dizaine d'années. J'aimerais bien que vous examiniez lui ou elle aussi. » Et on trouve souvent des problèmes là. Et là, c'est aussi très, très important qu'à l'âge de l'école, c'est dans un niveau complètement différent. C'est plus
des vomissements ou des problèmes avec la nourriture, c'est plutôt la concentration ou les choses comme posture et comme agitation et des trucs comme ça.
Voilà. Et là, on a fait une examination
il y a presque 30 ans
et on a trouvé environ 350 patients. Finalement, on a pu examiner 250 cas. Avec les autres, il y avait des informations qui manquaient. Et en total, tu as la grande majorité qu'on a traité une fois. Et les 10 des 260 qu'on a dû traiter plusieurs fois étaient souvent des bébés qui ont eu des neurologies en plus. Et avec les patients-là, on a eu un taux de satisfaction avec les parents qui était assez agréable. Et ça, c'était à gauche, les problèmes que les parents ont vus, et à droite, les problèmes que nous avons vus. Et vous voyez que c'est encore, parce que c'est les années 90, c'est encore des cas où le torticolis est plus important. Aujourd'hui, c'est plutôt la rétroflexion et les problèmes d'agitation, parce que le torticolis, c'est soigné à la périphérie par des ostéopathes ou physiothérapeutes, et c'est les cas problématiques qui arrivent chez nous aujourd'hui. C'est un article que j'ai écrit en 1999 et basé sur une enquête que j'ai faite 5 ans avant. Et cette groupe des jeunes qu'on a traité début des années 90, on a réexaminé 20 ans plus tard. Et ça, c'est les résultats. La raison pour laquelle j'ai fait cet examen était parce que les assurances ont fait des problèmes. Ils ont dit, c'est un enfant qui a eu un KIS, on ne va pas payer toutes les choses qui sont reliées avec la colonne vertébrale. Et là, j'ai fait une enquête pour savoir comment est le développement de ces jeunes après. Et j'ai vu... C'est tous les chiffres qui sont bien inférieurs aux chiffres normaux. Hein? Si tu as un problème, que 2% ont un problème de leur position, qu'un quart a des problèmes de mal au dos à l'âge des jeunes adultes, et une toute petite minorité a eu des problèmes à l'école. Et ça veut dire que... c'est très intéressant de penser que là, on montre que la chance qu'on peut donner aux jeunes pour un développement normal est incroyable. Et surtout, maintenant, on sait que la myopie est aussi étroitement reliée au fait qu'on n'a pas assez de lumière de l'extérieur. Dans les pays comme Singapour ou comme des villes comme Shanghai, on a 90% de myopie parce que les enfants bossent comme les fous pour l'école et ils ne sont jamais à l'extérieur. Et là, ça cause des vrais problèmes. Mais là, c'est aussi avec l'occlusion crevée. Je peux seulement dire que c'est une petite groupe qu'on a réexaminée et ce sont des questions extrêmement intéressantes, mais mon pouvoir est trop petit et trop limité pour approfondir ces informations.
Et comme ça, j'ai dit, c'est, ça serait arrogant de dire c'est une preuve, mais ça, ça, c'est intéressant. Voilà. J'ai terminé ce petit discours sur les problèmes fonctionnels des petits. Et il y a sur ce site, il y a un article en français que vous pouvez consulter qui a toutes les informations que vous avez vues aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email sur, sur ce site. Et il y a aussi un livre que j'écris, et vous voyez l'illustration de Kate Kollwitz que j'ai déjà montré, c'est paru chez Elsevier, chez Butterworth and Heinemann, et un autre livre est le Oxford Book of le Oxford Book of Musculoskeletal Medicine. J'ai écrit un chapitre sur les petits et sur l'influence de la thérapie fonctionnelle avec les enfants. Et et le problème est toujours multidimensionnel. J'ai dit le premier problème des petits et leurs parents.
Excuse-moi, il y a 10 personnes qui sont allées au cabinet au lieu de venir ici. Elles arrivent. Est-ce que tu peux faire un petit break de 3 minutes le temps qu'elles arrivent?
Maintenant, c'est fini.
Ah bon?
Oui, maintenant, c'est la fin.
D'accord. Ils poseront leurs questions.
Tarchit.
Ils sont cons, quoi. On a envoyé mail, information.
Et ça, c'est un petit film que j'ai fait avec mon fils qui est graphiste, qui montre les problèmes d'une bonne diagnose et thérapie. On a le trou normand, et on a... Oh, pardon. Pourquoi ça ne marche pas?
C'est
vraiment recalcitrant aujourd'hui. Et on ne va pas se laisser décourager.